Je vais essayer de continuer ce que j'avais commencé la semaine dernière. Et je voudrais prendre comme point de départ ce que je vois comme un certain paradoxe dans l'histoire de l'anthropologie, un paradoxe qui me paraît la source de beaucoup de nos problèmes. C'est que l'anthropologie commence, comme je vous l'avais dit, dans l'enthousiasme et la mouvance évolutionniste. Les livres qui sortent sont souvent par des auteurs qui se voient comme écrivant une partie de l'histoire commencée par Darwin. Qu'à ce moment-là, l'anthropologie trouve un très très large public et populaire, etc. Et qu'ensuite, elle souffre de la réaction contre Darwin, la réaction que j'ai appelée la réaction diffusionniste. Et la raison pour laquelle il y a une ironie ou un paradoxe dans ce qui se passe, c'est que, en fin de compte, quand nous examinons de près les travaux des évolutionnistes classiques, Morgan, Tyler, d'autres personnes comme ça, nous voyons qu'en fin de compte, leur théorie n'a rien de darwinien et que ce sont plutôt les théories des anti-darwiniens qui sont plus proches des idées darwiniennes. Pourquoi ? Eh bien, parce que les darwiniens utilisent en fin de compte des idées qui remontent bien avant Darwin, tandis que les diffusionnistes, quoi qu'ils ne s'en rendent pas compte, se basent sur la spécificité du cerveau humain, le produit de l'évolution naturelle, mais un produit qui fait que, d'une certaine manière, tout change. Les auteurs, tout change, pourquoi ? Eh bien, parce que l'aspect fondamental du cerveau humain, en contraste avec celui de tous les autres animaux, est qu'il reçoit et envoie des messages qui peuvent eux-mêmes être reçus et transmis, et que donc l'être humain est fabriqué, d'une certaine manière, non pas par ses gènes, mais dans la position qu'il occupe dans ce que nous pourrions appeler une immense conversation, la circulation des messages, des idées qu'un individu reçoit, retransmet, transforme, mélange, malaxe, tout ce que vous voulez. Et que ce phénomène fait que l'histoire humaine est totalement différente de l'histoire des autres animaux. Je crois que je peux vous l'illustrer d'une manière presque amusante, si vous voulez, avec ces deux illustrations. Nous avons là un lièvre. Je crois que c'est bien un lièvre. Dessiné par Dürer en 1502. Vous avez la date. Et ce que vous remarquerez au sujet de ce lièvre, c'est qu'il ressemble incroyablement à un lièvre de 2006. Si on comparait un lièvre de 2006 et un lièvre de 1502, je crois que nous ne verrions presque aucune différence. Par contre, si nous regardons ce portrait de Dürer lui-même, fait à peu près à la même période, nous nous rendons compte que nous ne rencontrons pas des gens comme ça dans la rue. Ce personnage est très 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 différent de nous, autrement des gens que nous connaissons. Il est habillé d'une manière différente, son corps est traité d'une manière différente. Donc, il y a une différence extraordinaire entre l'histoire pour les lièvres et l'histoire pour les humains. Au plus simple, cette différence consiste en le fait que tout va infiniment plus vite. Et tout va infiniment plus vite pour une raison très simple, qui est celle que dont je parlais il y a une minute, qui est que les êtres humains sont créés en partie par les messages qu'ils reçoivent, par ce mouvement continu que nous appelons la culture, qui crée l'histoire, qui rend l'histoire possible. Non seulement tout s'accélère, mais une différenciation, une variation énorme devient possible. S'il n'y a que à peu près 150 000 ans depuis l'apparence d'Homo sapiens moderne, eh bien, en ces 150 000 ans, une période extrêmement courte pour un changement génétique, il y a eu tout le temps voulu pour une différenciation entre les Chinois, les Français, les plombiers, tout ça. Donc, le phénomène spécifique qui vient du fait du cerveau humain fait que si on veut continuer l'histoire qu'avait commencé Darwin, il ne faut pas faire comme les évolutionnistes, c'est-à-dire penser que le genre de transformation dont avait parlé Darwin continue depuis l'apparence de l'être humain de la même manière. Il faut prendre en compte la spécificité qui est causée par la nature même du cerveau qui a été créé par le processus darwinien. Et alors, les diffusionnistes qui se voient et qui étaient fortement anti-darwiniens, qui voulaient éviter une histoire matérialiste de l'humanité, qui se voyaient comme idéalistes, qui souvent étaient motivés par des idées religieuses, parce qu'ils essayaient de rattraper le terrain perdu par l'idée de l'évolution en disant, regardez l'histoire de l'humanité, ça n'est pas si simple, les idées passent de personne en personne, des choses auxquelles ils avaient entièrement raison, mais qui permettaient, si vous voulez, de réintroduire, par exemple, des idées venant de la Genèse ou tout ce qu'on voulait. Tous ces gens-là qui se voyaient fortement anti-darwiniens pour les idées darwiniennes, mais aussi pour des raisons philosophiques fondamentales, en fin de compte, se basaient sur un phénomène essentiel que Darwin d'ailleurs explique, l'apparition et le caractère exceptionnel du cerveau humain. Donc on pourrait dire que tous ces diffusionnistes sont les vrais darwiniens, quoique eux se pensaient comme des anti-darwiniens. Parce que eux, en prenant en compte le fait que les humains sont créés par ce maelstrom de messages qui caractérise l'histoire de l'humanité, ont pris en compte ce que le cerveau humain peut faire, tandis que les évolutionnistes, en voulant voir un espèce de développement unilinéaire très simple, ne l'avaient pas du tout pris en compte. Mais avant d'aller trop loin dans la louange des diffusionnistes, quelque chose que je ne ferai pas, leurs écrits sont très peu intéressants en eux-mêmes, c'est l'idée de base qui est intéressante. Il faut aussi remarquer un aspect qui est fondamentalement anti-darwinien dans leur pensée et qui est aussi une erreur fondamentale. La réaction diffusionniste se base sur l'idée que, à cause de la nature particulière du cerveau humain, tout change. Comme si il y a une histoire pour les animaux, autre que les humains, et une histoire d'un caractère totalement différent pour les humains. Donc il y a eu une césure fondamentale qui a eu lieu à un certain moment dans l'histoire de l'évolution humaine. Mais nous savons très bien, et maintenant nous savons énormément sur l'histoire du développement des humains, que quand nous examinons les différents hominidés que l'on retrouve et que l'on commence à connaître, nous ne trouvons pas un moment de Big Bang, un moment d'explosion où tout change. Si nous examinons quand est-ce qu'il aurait lieu, est-ce qu'il aurait lieu avec l'apparence d'Homo sapiens, comme je vous disais, à peu près il y a 150 000 ans, eh bien, ça paraît fort peu probable. Des hominidés bien plus anciens qu'Homo sapiens faisaient déjà des outils de grande beauté. Le cerveau augmente, c'est vrai, avec l'apparition d'Homo sapiens, mais pas tellement. Il avait déjà beaucoup augmenté à d'autres stades différents. Donc, l'idée que, avec la venue du cerveau humain, il y a un changement absolu qui a lieu dans la nature de l'humain comparé aux autres animaux, cela ne s'accorde pas avec ce que nous savons de l'histoire du développement d'Homo sapiens. Donc, quoique nous pouvons dire que les diffusionnistes sont plus proches, si vous voulez, de la pensée darwinienne que les évolutionnistes, ils emportent dans leur bagage une idée qui gênera de plus en plus à la suite du développement de l'anthropologie. Car l'anthropologie, comme elle s'est développée en Europe et aux États-Unis, est vraiment la continuation des diffusionnistes, beaucoup plus qu'elle est la continuation des évolutionnistes. C'est particulièrement clair aux États-Unis, où le rejet des théories évolutionnistes est lié à un groupe d'anthropologues allemands, anthropologue d'origine allemande, mais très inspiré par les idées de culture venant de l'Allemagne, comme Boas, qui est lui-même, très évidemment, et il ne s'en cache pas du tout, un diffusionniste, qui est un diffusionniste et qui utilise le diffusionnisme d'une manière qui sera caractéristique pour dire « oublions la nature humaine », parce que de penser en termes de nature humaine ne nous amène à rien. Ce qui crée l'individu est l'histoire, un phénomène complètement différent. Et l'histoire est cette espèce de circulation d'idées, de textes, de thèmes qui place chaque individu, chaque culture dans une position différente. Il n'y a rien d'essentiel à l'être humain. Et nous voyons ce genre d'idées se développer de plus en plus parmi les élèves de Boas, des auteurs, par exemple. Le plus caractéristique serait Margaret Mead, très connue, et ses travaux sont très connus et sont absolument typiques d'une certaine manière. Ils sont typiques dans la brutalité de ce qu'ils disent. Qu'est-ce que dit Margaret Mead dans tous ses écrits? Elle dit: vous croyez que les gens sont comme ci ou comme ça, mais non, que les hommes ont un tel caractère, les femmes ont un tel caractère. Non, je vais vous montrer dans une autre culture que l'histoire ou la culture peut les créer totalement autrement. Et elle fait ça pour toute une série de choses. Il n'y a rien d'essentiel d'humain. Et tout ce que nous croyons est essentiel. C'est une erreur idéologique de notre part de vouloir universaliser la culture que l'on connaît. Ce ton, cette espèce de raisonnement devient caractéristique de l'anthropologie américaine et je dirais de l'anthropologie en général et se manifeste dans l'accusation d'ethnocentrisme, l'accusation la pire que l'on peut faire à un anthropologue en disant « Vous avez pris comme universel ce qui est enfin spécifique à votre moment, votre position, votre période. » Ce qui donne aussi un caractère très particulièrement négatif à l'anthropologie. L'anthropologie, comme elle se développe à la suite des diffusionnistes, est pour dire, je crois que le message principal qui ressort, et ça c'est particulièrement fort dans l'anthropologie américaine, est de dire au public en général, non, vous vous trompez. Vous vous trompez, vous avez des idées sur qu'est-ce qu'est la morale, qu'est-ce qu'est la nature des sexes, qu'est-ce qu'est la sexualité, tout ça. Vous croyez que ce sont des idées absolues. Non, mais vous, vous vous trompez. Et le rôle de l'anthropologue est cette espèce de négation continue en disant, mais je vais vous montrer qu'il y a d'autres gens qui font autrement. Donc, votre universalisme est naïf et peu informé. En soulignant ça, je ne dis pas par contre qu'ils ont tort. En général, ils ont les exemples qu'ils prennent, ils ont raison. Mais de répéter continuellement ce négatif a l'effet que ce qui pourrait être positif disparaît, on n'est plus trop sûr. Qu'est-ce qui pourrait être positif? Quelque chose que ressentent souvent les étudiants en anthropologie, qu'on leur a convaincu de toute une série d'erreurs qu'ils risquent de commettre, mais ils n'ont aucune idée quelles seraient les non-erreurs qu'ils devraient affirmer. Et cette tendance que j'appelle donc diffusionniste, parce qu'elle commence par des auteurs qui sont très clairement diffusionnistes, qui voient comme leur rôle, continue, comme je vous dis, dans des auteurs qui sont beaucoup moins clairement diffusionnistes, comme Margaret Mead ou Ruth Benedict. Je reviendrai en dire quelques mots à son sujet. Et je crois prend sa floraison la plus poussée dans les travaux d'un anthropologue américain, qui est probablement l'anthropologue contemporain le plus connu dans le monde, Clifford Geertz. Pour moi, Clifford Geertz est, si vous voulez, la floraison de ce développement diffusionniste qui commence dans la réaction contre Darwin. Clifford Geertz est très utile aussi comme type idéal de ce genre de position. Je crois qu'il serait très étonné qu'on dise qu'il est un diffusionniste. Mais il est très utile comme type idéal pour ce genre de position parce que, comme les autres auteurs dont je vais parler aujourd'hui, Durkheim et Lévi-Strauss, il est explicite au sujet des implications psychologiques et épistémologiques qui suivent du genre de position qu'il adopte. Tandis que la plupart de ses collègues ne poussent pas très loin l'examen épistémologique de ce qu'ils disent, ne poussent pas très loin l'examen des théories psychologiques impliquées par ce qu'ils proposent. Ce n'est certainement pas le cas de Geertz. Mais pour essayer d'expliquer ce que Geertz veut dire, vous avez entièrement raison, j'aurais dû écrire son nom. Ah, voilà. Crayon là. C'est Geertz. Beaucoup de ses écrits sont traduits en français. je crois que pour commencer à la discussion de ce que Geertz propose, et je crois que ce n'est pas un accident, on peut commencer en disant le genre de proposition qu'il dénonce. Vous voyez, on retrouve ce caractère négatif qui est très caractéristique. Je crois que le genre de proposition que Geertz dénoncerait serait de dire, vous voyez, j'ai étudié les gens de Bali. Les gens de Bali ont une culture particulière. Donc, à Bali, la nature humaine a été façonnée dans une manière, d'une manière particulière à cet endroit précis, à ce temps précis. Geertz dirait, beaucoup des écrits anthropologiques ont ce genre de notion qui, à première apparence, paraît parfaitement raisonnable de dire, voilà, les humains sont comme ça, et à Bali, ils ont été, nous avons un exemple du genre humain fabriqué de cette manière. Donc, nous pouvons étudier leur religion, leurs institutions politiques, leurs institutions de parenté, comme des exemples du genre de système politique, du genre de religion, du genre de système de parenté que les humains peuvent avoir. Nous pouvons donc faire ensuite une anthropologie comparative. Alors, qu'est-ce qui ne va pas pour Geertz dans ce genre de représentation de l'anthropologie qui, après tout, est assez proche de la manière dont beaucoup de gens le pensent? Je crois qu'on peut vous donner... Il y a deux raisons fondamentales, deux choses qui lui déplaisent. La première, je crois qu'on peut l'illustrer en utilisant un de ses travaux qui s'est intitulé en anglais, je crois, je ne suis pas absolument sûr qu'il est traduit en français, mais qui est intitulé en anglais « Negara », qui parle des idées politiques à Bali. Le mot « Negara » est un mot normalement traduit en anglais ou en français par le mot « État ». Si vous regardez des livres sur l'Asie du Sud-Est, c'est un mot qu'on utilise dans beaucoup de parties de l'Asie du Sud-Est, vous verrez « Negara » veut dire « État ». Et alors, ensuite, il pourrait s'en suivre qu'on dirait « Bon, on va étudier l'État à Bali, le comparer avec l'État au Swaziland, l'État Inca, l'État de la France du XIVe siècle, tout ce que vous voulez. » Mais, dit Geertz, ça serait une erreur fondamentale. Ce serait une erreur fondamentale parce que ça impliquerait que il y a quelque chose qui s'appelle l'État en dehors de toutes ces manifestations particulières. Et que Negara serait un exemple de l'État. Mais qu'est-ce que serait cet État en dehors de toutes les manifestations particulières que nous trouvons autour du monde? Pourquoi est-ce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait quand on traduit tous ces mots en État? Eh bien, le mot français « État » a un sens, et nous, c'est un sens qui s'est développé comme la langue française s'est développée, et avec l'histoire très influencée naturellement par l'histoire politique française. Et quand nous allons à Bali, nous reconnaissons quelque chose qui nous rappelle vaguement ce que le mot français « État » veut dire. Donc nous disons « c'est un exemple de l'État ». Ce que nous disons simplement, c'est que c'est quelque chose qu'il y a à Bali qui nous rappelle l'État français. Mais ça ne nous dit pas du tout que l'État français et le Niagara de Bali sont deux exemples d'un État transcendantal qui existerait au-delà des manifestations particulières. Et on peut aller plus loin, dirait sans doute Geertz. Les gens, qu'est-ce que nous faisons quand nous allons à Bali? Nous essayons de comprendre comment les gens agissent. Les gens agissent en termes de Niagara, pas en termes d'État. Ils agissent à l'intérieur des sens très particuliers qui ont été créés par leurs histoires. Donc, si nous pensons que Niagara égale État, nous ne comprendrons pas ce qu'ils font, simplement. Ce que nous avons à comprendre, c'est qu'est-ce que eux veulent dire par Niagara. Nous trouvons que Niagara est relié à d'autres idées qu'ils ont. Notre travail en tant qu'anthropologue est de montrer comment ces idées marchent ensemble, d'essayer de les communiquer le mieux que nous le pouvons, et d'oublier la notion d'État, de ne pas prétendre que l'État est une caractéristique de la nature humaine à un stade particulier, de l'histoire. Donc, le travail de l'anthropologue n'est pas un travail de généraliser sur la nature humaine, ou même des aspects qu'on pourrait relier à la nature humaine comme l'État. Au contraire, ce qui est faux, et c'est là la deuxième idée de Geertz, c'est l'idée qu'il peut y avoir une nature humaine en dehors de manifestations particulières, à des moments particuliers, à des endroits particuliers. Parce que, et c'est ce qu'il nous dit, qu'est-ce que serait un humain qui n'est pas un Balinais, un Français du XIVe siècle, un Chinois? Qu'est-ce que ça serait ce phénomène? C'est aller à l'encontre de l'idée même qu'avec la venue d'Homo sapiens, l'être est créé par sa position dans l'histoire de l'humanité, et que donc un humain qui n'est pas enculturé, c'est-à-dire qui n'est pas pris dans le processus historique particulier d'un endroit et d'un moment, n'est simplement pas un être humain. Là, je répète presque mot pour mot ce qu'il dit. Donc, abandonnons toute idée de généraliser en termes de nature humaine et simplement étudions cet endroit, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, par-ci, par-là, à un moment différent. Et c'est ça ce qu'est l'anthropologie. Alors, vous voyez le genre de bizarrerie qui s'est passé. C'est là où mène naturellement le diffusionnisme. Le diffusionnisme mène naturellement à la négation complète de l'idée d'une science sociale, que l'anthropologie serait une science sociale. C'est aussi une négation, d'ailleurs, de toute idée de science sociale, quelque chose qui est assez facile de proposer, parce qu'il y a des grands problèmes de penser en termes de sciences sociales, pour la raison que je viens de donner. Abandonnant tout cela, devenons simplement des ethnographes parlant de cette situation ou de celle-là, à tel moment. Et c'est tout ce que l'on peut dire. Alors, vous voyez, c'est là où mène naturellement le diffusionnisme, quoique le diffusionnisme est basé sur une observation fondamentale et extrêmement simple, qui est elle non anecdotique comme le genre d'anthropologie que voudrait Geertz, le fait que le cerveau humain est en partie construit par les messages qu'il reçoit, par sa position dans le maelstrom de l'histoire humaine. Bon, alors naturellement, il y a un autre élément qui est introduit par Geertz et qui avait été introduit plus fortement par d'autres des anthropologues américains, en particulier Ruth Benedict, qui est l'idée de cohérence. L'idée que, une idée comme Negara, cohère avec d'autres idées qui se trouvent à l'intérieur d'un système herméneutique de concepts. Ruth Benedict, à l'encontre de Geertz, se base sur une théorie psychologique vers laquelle je reviendrai plus tard. Geertz, même pas. Il pense que les choses sont cohérentes parce qu'elles sont cohérentes. Et d'ailleurs, c'est pas faux. Et que, de toutes les façons, c'est la manière d'écrire l'ethnographie qui fait que la seule chose que nous pouvons faire quand nous voulons décrire ce qui se passe à Bali, c'est de décrire les idées balinaises comme si elles étaient cohérentes. C'est simplement une note sur un point sur lequel je vais revenir. Alors, l'autre auteur vers lequel je voudrais me tourner maintenant est un auteur antérieur à Geertz, mais d'une certaine manière, il est moins simple que les Geertz. Il est moins, si vous voulez, un pur diffusionniste dans le sens assez particulier que j'utilise le mot ici. Et ça, c'est Durkheim. Moi, je vois les travaux de Durkheim comme étant aussi dans la mouvance diffusionniste, dans le sens que je l'ai utilisé. Ce que je veux dire par ça, c'est que le point de départ de Durkheim est le même point de départ que celui de Geertz, qui est de dire « il n'y a pas de nature humaine ». Il n'y a pas de nature humaine, ou plutôt que, partant de la nature humaine, nous n'apprendrons rien d'intéressant au sujet des peuples que nous trouvons, que nous voulons étudier dans le monde tel qu'ils sont. Et, exactement de la même manière que les anthropologues américains, si nous croyons qu'il y a quelque chose comme la nature humaine, ce que nous ferons, c'est simplement imputer à d'autres gens nos idées à nous, que nous avons, par erreur, cru être universel. Par exemple, et ça c'est un exemple clé pour Durkheim, qui voit tout son travail comme une espèce de critique de l'utilitarisme britannique, en particulier de Mill, si nous imaginons que le désir de rendre maximum le profit ou le gain est une idée universelle qui dirige, qui guide les humains, ce que nous faisons, c'est tout simplement nous proposons quelque chose qui est le produit du genre de société et de culture qui est le nôtre. Nous disons que cette caractéristique est une caractéristique humaine, oubliant qu'elle est le produit d'une société particulière, et ensuite nous essayons de l'attribuer au reste de l'humanité, et du même coup, nous allons jusqu'à dire que ceux qui ne maximalisent pas au maximum sont des primitifs, des inférieurs, ce qui est un résultat inévitable d'avoir pris comme valeur universelle quelque chose qui est caractéristique de notre société. Donc, La raison pour laquelle, et c'est peut-être certains de vous seraient étonnés, pour laquelle je caractériserais Durkheim comme un diffusionniste, c'est que son point de départ est les êtres humains sont créés par leur position dans l'histoire, leur position particulière, qui fait que, de partir, disons, de leur esprit, de leur psychologie, nous ne ferons rien d'autre que de l'ethnocentrisme. C'est ça la nature de l'antipsychologisme de Durkheim. Ce n'est pas qu'il est contre la psychologie en telle, mais c'est qu'il est contre l'idée trop rapide qu'on peut attribuer des caractères psychologiques à l'être humain. Alors, nous sommes là extrêmement près du genre de critique que nous aurions pu trouver chez Margaret Mead, chez Boas, chez Geertz. Naturellement, il y a une grande différence chez Durkheim. Et la différence est que Durkheim est assez effrayé des implications relativistes qui viennent de ce point de vue. Et donc, il essaye de se rattraper d'une autre manière, d'une manière, tandis que d'essayer de se rattraper du relativisme implicite d'une position comme celle de Geertz, ça n'inquiète pas Geertz du tout. Et alors, comment est-ce qu'il essaye de se rattraper? Il dit, oui, ça n'est pas à cause de l'accident, le positionnement accidentel dans l'immense conversation qu'est l'histoire de l'humanité qui explique le genre d'idées, le genre de morale, le genre de notion de soi qui fait que certaines personnes pensent de telle manière, c'est que c'est le genre de société, c'est que le genre de société dans laquelle ils se trouvent. Alors, ces sociétés sont le produit de l'histoire, mais dans sa pensée, il n'y a qu'un certain nombre de sociétés possibles. Que les humains ne peuvent s'organiser que d'une certaine manière, une certaine liste, si vous voulez, de sociétés, et que chacune de ces sociétés implique la création de l'être humain, parce que c'est l'organisation sociale qui crée les idées qui font que l'être humain sera créé par les idées d'une culture particulière. Donc ce n'est pas simplement d'être posé dans l'histoire, mais d'être posé dans une société qui elle-même est créée par l'histoire. Ainsi, on s'éloigne d'une espèce de relativisme de pagaille qui, en fin de compte, à la fin, l'implication des théories de l'anthropologie culturelle américaine, pour essayer de récupérer des limites à la manière dont les gens sont faits. Et cela permet à Durkheim de dire, vous voyez, je ne veux pas faire l'erreur de dire les humains sont comme ça, les gens agissent de telle et telle manière parce qu'ils sont simplement des gens. Non. Ils agissent de telle et telle manière parce qu'ils sont des éléments d'un système social qui les fait agir de cette manière. Comme ça, on évite une espèce de naturalisme humain, mais on a à la place un naturalisme de société. Pour reprendre la phrase la plus connue de Durkheim, il dit « ça n'est pas l'individu qui crée la société », parce que de dire « c'est l'individu qui crée la société », ça serait attribuer quelque chose d'essentiel à l'humain. C'est la société qui crée le genre d'individu qui agit. Mais finalement, je crois que nous sommes tout de même exactement à la même position que la position du fusionniste général, qui a comme point de départ cette négation qu'on peut dire quelque chose à propos des êtres humains en tant qu'êtres humains. C'est ça qui intéresse le plus Durkheim, c'est-à-dire on ne peut pas dire que les êtres humains en tant qu'êtres humains sont ainsi, parce que ça, c'est oublier le fait qu'ils sont créés par l'histoire. Ils sont créés par l'histoire qui crée la société, mais finalement, si on regarde toutes ces théories d'assez loin, ben, ça revient à la même chose. Et pour ironie finale, le diffusionnisme est ce qui détruira finalement le genre de position de Durkheim. Parce que une implication du diffusionnisme est que chaque individu est différent, que chaque personne est positionnée dans cette espèce d'immense conversation qui est l'histoire de l'humanité, parce que c'est un réseau d'une telle complexité qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de société. Il y a simplement des graduations d'individu à individu. L'idée qu'il y a des sociétés claires et distinctes n'est pas possible à la lumière d'un diffusionnisme fondamental. Et que donc, ce que Durkheim espérait aller sauver les implications du diffusionnisme de relativisme ne marche pas pour des raisons auxquelles je reviendrai dans la quatrième leçon. Le troisième auteur, le troisième personnage que je voudrais examiner de la manière un peu bizarre que j'ai faite dans ces deux premières leçons, c'est-à-dire de regarder les implications psychologiques et évolutionnistes de positions anthropologiques d'auteurs qui ne se pensent pas en ces termes, la troisième personne est Lévi-Strauss. Je suis sûr que vous êtes beaucoup plus familier des travaux de Lévi-Strauss que vous êtes de ceux de Geertz ou de Durkheim, mais d'une certaine manière, Lévi-Strauss est aussi assez clairement un des produits de la réaction diffusionniste, mais d'une manière un peu plus compliquée. Et je commence de parler de lui maintenant parce qu'il me servira d'introduction à la leçon de la semaine prochaine. Alors, comme vous le savez, il y a deux origines à la pensée de Lévi-Strauss. D'abord, il y a le diffusionnisme pur et simple. Le diffusionnisme qui vient de l'école américaine d'anthropologie culturelle, qui lui vient directement de Boas. Et alors avec Boas, et d'ailleurs c'est un diffusionnisme tout à fait explicite dans le sens classique, on pourrait lire par exemple cet immense livre qu'il appelle mythologique, comme une étude diffusionniste qui étudie les va-et-vient des mythes d'Amérique du Sud et ensuite d'Amérique du Nord. C'est un travail diffusionniste absolument classique qui aurait fait très plaisir à Potter Schmidt en Allemagne ou des gens comme ça. Mais, donc, il y a cet élément qui veut souligner l'irréductibilité des systèmes culturels, la spécificité de chacun, le fait que chaque individu se trouve à un locus dans cette immense conversation humaine. Mais alors il veut amener quelque chose qui est d'une tradition totalement différente, assez ironiquement, qui reviendrait, si vous voulez, à un évolutionnisme beaucoup plus pur, qui est les théories qu'il veut emprunter aux États-Unis, de ce qui s'appelle les sciences cognitives naissantes, en particulier des travaux de Noam Bodvina sur le le système de feedback, le cybernétique, oui. Et alors, des idées qui ont une influence particulièrement forte quand il est en train de former ses idées pendant la guerre, parce que les idées de cybernétique étant liées aux premiers ordinateurs, aux missiles guidés, tout ça, c'était vraiment des idées qui avaient l'air de résoudre tous les problèmes et qui donnaient un modèle du fonctionnement du cerveau. Et alors, il est très intéressé par le lien qui paraîtrait être fait entre ce qui, aux États-Unis, s'est appelé la linguistique structurale, une espèce de synthèse de différentes théories de linguistique, certaines venant de l'école de Prague, certaines venant d'une beaucoup plus ancienne tradition américaine de linguistique, qui soulignait le caractère structuré des différents niveaux du langage et qui semblait s'allier avec les idées de cybernétique, qui aussi soulignait, qui voyait les systèmes d'information, et en particulier le cerveau, comme des systèmes structurants et continuellement structurants l'information. Alors, ce qui fascine Lévi-Strauss, et c'est très ironique pour une raison que j'expliquerai plus tard, ce qui fascine Lévi-Strauss, c'est cette rencontre entre ce qu'il appelle une science sociale, la linguistique, et une science dure ou naturelle, la cybernétique. Je ne crois pas qu'il appelle ça la cybernétique, mais c'est ça qu'il veut dire. Parce que les deux choses sembleraient aller ensemble et donneraient, si vous voulez, une base solide, naturelle et psychologique à un phénomène hautement culturel, la langue. Ce qui est assez ironique, c'est que de voir la linguistique structurale comme quelque chose qui a réussi cet alliage est amusant parce que 10 ans après, Chomsky critique précisément la linguistique structurale précisément pour n'avoir pas basé la linguistique sur une base psychologique et naturelle. Mais Lévi-Strauss, au moment où il forme ses idées, croit que la linguistique structurale pourra faire ça, et a fait ça, et donc a résolu le problème qui était introduit par le diffusionnisme, c'est-à-dire que il n'y avait plus rien à dire de général. Il y avait simplement, l'anthropologie devenait simplement une espèce de science d'endroit, de place, et qu'elle avait abandonné entièrement, si vous voulez, la vocation que son nom semblait impliquer. Et alors, Lévi-Strauss met les deux choses ensemble, mais l'anthropologie particulariste de Boas et la colle à la linguistique structurale qu'il appelle maintenant anthropologie structurale. L'anthropologie structurale donc prend l'étiquette linguistique structurale juste à peu près au moment où la linguistique structurale va mourir. Mais ça semble résoudre pour Lévi-Strauss un problème très intéressant, qui est le problème de comment est-ce qu'on peut ne pas nier ce que les diffusionnistes ont démontré, c'est-à-dire que le fait que les humains peuvent communiquer des informations entre eux fait que l'histoire de l'humanité est une immense pagaille, qu'elle n'a pas les grands principes d'ordre qu'avaient voulu imposer les évolutionnistes. On peut reconnaître cette immense pagaille. De nouveau, si on essaye de lire mythologique, il faut dire que d'un bout à l'autre, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, j'ai l'impression. Quelque chose que Lévi-Strauss réussit à communiquer remarquablement, c'est ce sens de cette immense pagaille avec un ordre sous-jacent. Si on veut rejoindre cette immense pagaille qui est créée par l'idée diffusionniste, on peut l'attacher à une idée de la psychologie humaine, du cerveau humain ou de l'esprit humain, qui est un espèce de mécanisme comme les ordinateurs imaginés par les cybernéticiens, qui sont des machines simplement qui ordonnent, qui donnent de la structure aux petits morceaux qui arrivent de par-ci, de par-là, et qui donnent cette structure, pas simplement simplement en mettant de l'ordre de ce qui est reçu, mais en termes de l'ordre qui avait déjà été construit avec les autres petits morceaux qui avaient déjà été reçus. Donc le cerveau est une machine à mettre de l'ordre, de la structure. Dans cette pagaille, qui est la véritable histoire de l'humanité, qui est créée par le fait qu'on reçoit des messages de par-ci, de par-là, de toutes directions, et que, donc, non seulement ça crée un certain ordre qui nous permet d'agir, mais ça nous donne aussi l'illusion d'un ordre qui est le genre de structure qu'il essaye de démontrer dans ses efforts ethnographiques. Alors, avant de finir cette leçon, je voudrais juste ajouter une comparaison très intéressante qui me permettra de continuer les cours qui vont suivre. Une comparaison entre les théories de Lévi-Strauss et les théories du psychologue Jean Piaget. Parce qu'il y a quelque chose de frappant dans la similitude entre les deux, quelque chose que Piaget lui-même a souligné plusieurs fois. Et cette similitude est basée sur le fait que l'idée centrale de comment le cerveau utilise les informations, c'est en les structurant, en leur donnant une structure. C'est l'idée maîtresse de Piaget, et d'une certaine manière, c'est l'idée maîtresse de Lévi-Strauss. Donc il y a cette évidente coïncidence. Je dis coïncidence parce que je ne suis pas du tout convaincu que Piaget a beaucoup influencé Lévi-Strauss. Il se réfère à lui après, mais j'ai l'impression que dans le cas de Lévi-Strauss, toutes ses idées ont été formées très tôt et n'ont pas vraiment beaucoup changé, quoiqu'il y ait des références à beaucoup d'autres gens après. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est non seulement ce qu'il y a de commun entre Piaget et Lévi-Strauss, mais c'est aussi ce qu'il y a de différent. Alors, ce qui manque chez Piaget et ce qui est présent chez Lévi-Strauss, c'est l'idée que le cerveau humain, l'esprit humain, structure des informations qu'il reçoit de l'extérieur, mais en termes de structures qui existent déjà. l'enfant, parce que c'est l'enfant chez Piaget, structure ce qu'il apprend, mais ne sait rien, n'a aucune connaissance avant qu'il s'engage à cet exercice de structuration. Tandis que chez Lévi-Strauss, c'est toujours une espèce d'accommodation entre une structure déjà établie, ayant un contenu et d'éléments qui sont là pour être structurés. On a souvent reproché à Piaget qu'il imaginait l'enfant comme un scientifique isolé qui ne savait rien, qui regardait le monde, qui apprenait des choses du monde, mais qui reconstruisait tout comme s'il était un individu, un espèce de Robinson Crusoe, sans aucune connaissance, qui donc n'était pas déjà plongé dans des structures culturelles et historiques. Mais ce qui manque chez Lévi-Strauss est l'opposé. Ce qui manque chez Lévi-Strauss, c'est l'idée, on pourrait dire la manière la plus simple de le dire, c'est que le monde de Lévi-Strauss ne contient que des adultes. Il ne contient que des adultes dans le sens que ces êtres qui reçoivent des informations d'autrui et qu'ils réorganisent en termes de ce qu'ils savent déjà, sont déjà des acteurs à plein dans leur culture. Donc, il n'y a pas d'idée de comment ce genre de phénomène peut être appris, comment un développement en termes du monde dans lequel l'enfant construit ce que Piaget souligne, comment l'enfant construit ses structures, comment il ajuste, comment il rejoint les structures qu'il construit et les structures qui lui sont donné de l'extérieur, qui est le problème central du psychologue soviétique Vygotsky, qui essaye de comprendre précisément la combinaison de ces deux éléments. D'une certaine manière, ce que Vygotsky essaye de faire, c'est de ne pas oublier ce que Lévi-Strauss a oublié et ne pas oublier ce que Piaget a oublié. Et c'est pour ça que dans la leçon qui va suivre, je vais commencer à m'intéresser au développement cognitif et mettre cela avec les considérations très théoriques qui ont été le cœur de ces deux premières leçons. Merci.